Europe 1.
Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Picasso, s'il aurait les cheveux, c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme des femmes.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Clémentine.
Bonjour.
Jean-Luc.
Bonjour
à David.
Tous.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et celle aussi qui est avec nous aujourd'hui, notre journaliste à la mode. Bonjour Ivan Jacob.
Bonjour, bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui. Ah ben voilà, voilà. Ils ont redoré le château de Versailles. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par un roi qui a imposé son style à Versailles et qui s'y expose ces jours-ci dans le cadre d'une magnifique exposition. Le roi bien-aimé Louis XV, qu'il était au début. Bon, un peu moins à la fin, vous verrez. Puis je vous raconte celui qui a investi une partie de sa grande fortune pour rénover et surtout redorer le château de Versailles au moment où la demeure des rois de France tombait lentement en ruine. John D. Rockefeller Jr., le fils du célèbre roi de pétrole. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un artiste qui a mis de l'or à Versailles lui aussi.
Oui, l'artiste japonais Takashi Murakami qui a investi Versailles il y a quelques années avec son Yume Lion, un drôle de roi lion en bronze doré à la feuille d'or, ou son ovale Bouddha tout doré lui aussi. Ça a plu à certains, mais pas trop à d'autres, vous verrez.
Eux, en revanche, ils plaisent à tout le monde, en attestent les nombreux courriers que l'on reçoit. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. On reste avec vous et surtout avec Louis XV cet après-midi.
Oui, on reste à Versailles. Et alors, si vous voulez redorer le château de Versailles, c'est bien gentil, mais enfin, passer dans les salons du château à l'époque où il ne sentait guère la rose, hein, on connaît les légendaires problèmes d'hygiène de l'époque, voilà qui devait moins tenir de l'éblouissement que de l'épreuve. Et il y a quand même deux de nos rois qui ont tenté d'arranger les choses, précisément Louis XIV, que l'on surnommait le doux fleurant, et Louis XV. Et c'est Louis XV qui a valu à Versailles d'être surnommé la cour parfumée.
Alors lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, et souvent les siennes. C'est David Cassel-Lopez. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Je vous parle du cri de Tarzan.
Voilà, Johnny Westmiller.
Et oui, exactement.
Mais il paraît que c'est
Attendez, on va rien révéler. De...
Oui. Il paraît que si on faisait ma chronique maintenant, en fait, au lieu de la faire à la fin de l'émission.
Et on est toujours impatients. Hein. Mais les origines, c'est en toute fin d'émission. Voilà. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte le temps à une date très précise. Le 28 novembre 1973. Et on reste à Versailles avec vous, Ivan Jacob, puisque vous nous racontez la nuit qui a changé la face de la mode.
Eh oui, la bataille de Versailles. Une bataille sans soldats, sans canons, avec des robes. Une bataille de la mode. C'est une histoire qui n'est pas très connue, qui est incroyable, et que je vais vous raconter tout à l'heure.
Très bien, mes aïeux, quelle époque. C'est tout à l'heure, vers 17h45.
Vous avez tout dit, Stéphane.
Oh, écoutez l'essentiel, oui.
Non, je ne pense pas écouter... Born to be alive.
Oui, oui, c'est une très chouette musique, elle est entraînante, ça donne envie de bouger son boutichet. Mais j'ai une émission de radio là à faire, donc j'ai pas trop la tête ni le reste à consacrer au dance floor.
Mais c'est bien dommage. Non, cette musique, c'est le générique de Born to be alive, un quiz qui va de l'homme de Néandertal à la Première Guerre mondiale. J'espère que vous avez révisé, Stéphane.
Oh, zut. Non, mais j'ai fait l'impasse sur l'homme de Néandertal. Bon, je vais réviser pendant la pub. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
C'est un roi largement méconnu, coincé entre un illustre prédécesseur, le roi Soleil, et le dernier des rois de l'ancien régime, Louis XVI. Pourtant, il a connu un règne long et brillant, au sens premier du terme, au cours duquel il a largement contribué à l'éblouissante réputation du domaine de Versailles. Je vous raconte maintenant le bien-aimé Louis XV. Nous sommes le 15 juin 1722, il est 3h de l'après-midi, lorsqu'un cortège de carrosses quitte le palais des Tuileries, en plein Paris. À l'intérieur, un jeune adolescent de 12 ans, impatient, ordonne au cocher de fouetter les chevaux. C'est Louis XV qui, au grand galop, 2h30 plus tard, fait son entrée dans la cour du château de son enfance. on le dit, transformé de joie de retrouver cet endroit. Le jeune homme court partout, malgré la chaleur, dans les allées et les bosquets, observe les fontaines, les parterres et les sculptures du parc avant de s'allonger à 8h du soir, à même le sol de la grande galerie, sous le plafond peint par Charles Lebrun, hommage aux événements glorieux de la vie de son prédécesseur, le roi Louis XIV. Après 7 années passées loin de Versailles, le tout jeune roi est de retour à la maison. S'il n'est pas rare d'introduire un roi en expliquant qu'il n'était pas destiné à régner, la formule s'applique particulièrement bien à Louis XV. Le souverain n'est pas le fils de son illustre aïeul Louis XIV, pas même son petit-fils, non, c'est son arrière-petit-fils. À sa naissance, en février 1710, l'avenir semble bien assuré pourtant pour la dynastie des Bourbons. Louis a un grand-père, un père et un frère de 3 ans son aîné qui le devance dans l'ordre de succession au trône. Mais bientôt, les drames s'enchaînent. En 1711, le grand dauphin meurt de la variole. L'année suivante, ce sont la mère, le père et le grand frère du petit Louis qui s'éteignent, terrassés par une épidémie de scarlatine infectieuse. Au décès du roi Soleil, 3 ans plus tard, l'héritier du trône est un petit orphelin de 5 ans et demi. Louis XIV laisse à son descendant un royaume fragilisé par l'effet combiné des conflits dont l'interminable guerre de succession d'Espagne, des famines et d'une crise financière. L'avènement d'un nouveau monarque dont les malheurs touchent le peuple fait naître des espoirs. D'autant que Louis est un enfant ravissant et espiègle, quoique légèrement obsédé, on le comprend, par la mort. Au château de Versailles, l'ambiance n'est pas à la fête et les jeux, comme les spectacles, sont suspendus alors que se succèdent les deuils. Naturellement isolé par sa condition de roi, le jeune Louis XV peut tout de même compter sur l'amour et la tendresse de sa gouvernante, Madame de Ventadour, qu'il surnomme Maman Ventadour. Il la quitte à 7 ans pour être placé sous la responsabilité des hommes, en l'occurrence un gouverneur, le maréchal de Villeroy, ami d'enfance de son arrière-grand-père, tandis que sa solide éducation est confié au maréchal de Fleury. Le temps de la régence, exercée par Philippe d'Orléans, le petit roi est emmené à Vincennes, où l'air est réputé de meilleure qualité, puis au palais des Tuileries. De 5 à 12 ans, Louis ne revoit pas le château de ses premières années. Pourtant, juste avant d'être sacré roi, c'est à Versailles que le jeune souverain revient installer sa cour. Versailles. Symbole de la monarchie absolue, prison dorée où son illustre ancêtre a su soumettre la noblesse. 4 mois après son installation, le 25 octobre 1722, le roi est enfin sacré à Reims. À 15 ans, Louis XV épouse une princesse polonaise, fille du roi déchu, Marie Leszczynska. Elle a 6 ans de plus que lui, c'est-à-dire l'âge de faire ce qu'il est urgent de faire, des héritiers à la couronne. Ils se marient en 1725 à Fontainebleau et ne tardent pas à accomplir leur devoir. À 17 ans, le roi est père de 2 jumelles. En 10 ans, il aura 10 enfants et un premier garçon tant attendu, né en septembre 1729. Le domaine de Versailles, inoccupé pendant la Régence, est resté bien entretenu. Mais pour préparer le retour du roi, les glaces, les sculptures, les bronzes dorés des appartements et les tableaux ont été nettoyés. Dès son installation, Louis procède à de petits aménagements, sans changer la physionomie du château. À Versailles, le roi s'imprègne du domaine pour poursuivre son apprentissage. Il détaille les différents marbres qui composent la galerie des glaces, fouille le cabinet des médailles, étudie les dissections à la ménagerie et observe les éclipses du soleil et de la lune. Ses premières années de règne sont prospères. Une prospérité toujours relative, bien entendu, mais réelle. Le royaume s'enrichit, la population s'accroît, si bien que le roi tombé gravement malade en 1744 est miraculeusement rétabli et surnommé le bien-aimé. À Versailles aussi, le roi est apprécié. Il offre aux courtisans une proximité inédite en organisant des soupers dans ses appartements pour des petits groupes qui vont de 5 à une trentaine de convives. Autant d'occasions de passer des moments privilégiés et conviviaux avec le roi dans un décor fabuleux. Les mets les plus raffinés sont servis dans de splendides services en porcelaine et en argent, terrines, salières, chandeliers, petits et grands plats ronds ou ovales qui illustrent tout le luxe de cette cour. À la lumière des chandelles, où s'éclaire très souvent désormais le visage d'une certaine marquise de Pompadour, première grande favorite, c'est tout l'or des cabinets du roi qui semble briller de 1000 feux. Les boiseries forment un ensemble exceptionnel. Les boiseries blanc et or donnent le sentiment d'entrer dans une caverne des trésors. Ce que confirment d'ailleurs les soieries de Lyon, les porcelaines de Sèvres, les tapis de la manufacture, de la savonnerie. Tout ce que la France sait produire de plus beau. Louis XV n'est pas un roi qui se contente d'accumuler des objets de grande valeur. C'est un véritable amoureux des arts. À Versailles, c'est tout un style que le monarque va bientôt imposer sur le château. Passionné d'architecture, Louis XV travaille régulièrement d'arrache-pied auprès des grands ingénieurs de son temps qui vendent ses connaissances et son goût éclairé. Le roi va même parfois jusqu'à dessiner lui-même des plans de bâtiments. Mais le grand projet qu'il a de modifier ceux de Versailles ne lui survivra pas. Entre les murs du château, en revanche, nombreux sont les chefs-d'œuvre qu'il a commandés. La grande pendule astronomique de Claude Siméon Passement, notamment, est l'un de ses joyaux de l'art décoratif. Elle indique l'heure, la date et les phases de la Lune. L'ingénieur a consacré 20 années à la conception de sa sphère mouvante et les horlogers 3 ans supplémentaires à concevoir son corps en bronze doré dont les volutes et les formes curvilignes sont une merveilleuse représentation de l'art rocaille. Indissociable du règne de Louis XV, cette esthétique se retrouve sur tous les objets. Des candélabres comme modelés dans la cire aux carrosses, en passant par le mobilier, dont une extraordinaire commode de la chambre du roi. Un meuble qu'il a pu admirer chaque jour pendant plus de 35 ans et d'où les barbiers sortaient leur matériel avant de s'occuper de lui. Le monarque aime ce style qui traduit une vision, celle d'un monde où la fluidité et le plaisir priment. Le plaisir, Louis le trouve aussi à la chasse qu'il pratique environ 3 fois par semaine par tous les temps. Au mur du château, il fait accrocher un incroyable cycle de chasses exotiques où des hommes combattent tigres, lions et éléphants. Hélas, ce moment de perfection de l'art français, selon une formule restée célèbre du président Valéry Giscard d'Estaing en 1974, ne dure pas. Sur le plan personnel, le roi enchaîne les périodes de deuil, perdant tour à tour plusieurs de ses filles, puis Madame de Pompadour et son fils, l'héritier du trône. Sur le plan politique, les défaites de la guerre de 7 ans et le traité de Paris marquent la fin de l'hégémonie française au profit de l'Angleterre. Louis XV, le bien-aimé, devient le mal-aimé. Et même la présence de Madame du Barry à ses côtés à partir de 1768 ne parvient pas à égayer totalement ses vieux jours. Le roi meurt de la variole en 1774, après un règne de près de 60 ans, dans la chambre dorée de son appartement intérieur, restant pour toujours le seul roi de France qui soit né et mort au château de Versailles.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Louis XV avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir le commissaire de cette grande et magnifique exposition, Louis XV, les passions d'un roi, qui se tient actuellement au château de Versailles. Bonjour Yves Carlier.
Bonjour Stéphane Bern.
Yves, la première partie de cette très belle exposition s'intéresse à l'homme privé, qui était celui qu'on surnommait le bien-aimé. Comment décrire en quelques mots le caractère de Louis XV ?
Alors les contemporains étaient frappés par un aspect secret de Louis XV. Il était secret par nature et c'est ce qui a été expliqué dans votre chronique. Tous les deuils qu'il a pu ressentir pendant son enfance l'ont profondément marqué. Mais également secret par politique, parce qu'il ne pouvait pas trop se livrer. C'était quelqu'un de timide en public, ce qui est paradoxal parce qu'il avait une belle prestance, mais c'est également timide en public. Une de ses favorites, par exemple, lui a reproché qu'il ne savait pas complimenter les gens qui étaient devant lui. C'est quelqu'un qui a été, et là les ambassadeurs ont été frappés, quelqu'un qui a été fidèle en amitié. À partir du moment où il témoignait de l'amitié pour quelqu'un, il ne l'abandonnait pas, sauf s'il estimait qu'il y avait une trahison. Et puis enfin, c'est un peu une sorte de contrepoint qui est complémentaire. C'était un roi extrêmement neurasthénique. Et Madame de Pompadour a eu cette belle phrase en disant « il faut désennuyer le roi ».
Clémentine.
Oui, au cours de l'exposition, on voit les fameuses phrases que le roi Soleil a adressées à Louis XV sur son lit de mort. Quelles consignes lui donne-t-il et dans quelle mesure son successeur les respectera ou pas ?
Les consignes les plus célèbres laissées par Louis XIV et que du reste Louis XV a imprimé lui-même sur un feuillet qui est présenté à l'exposition, c'est d'abord de ne pas aimer la guerre. Et Louis XV a été nettement moins belliqueux que Louis XIV, donc là il a suivi quand même les conseils de son arrière-grand-père. De ne pas trop aimer les bâtiments, alors là Louis XV n'a pas vraiment suivi son arrière-grand-père. Et enfin, il lui dit également de prendre soin de ses peuples.
Louis XV est sacré en la cathédrale de Reims en octobre 1722, il a 12 ans je crois. De quelle façon son règne s'inscrit-il dans la continuité du règne de son arrière-grand-père Louis XIV ?
Alors, Louis XV a endossé le le manteau de roi, si je puis dire. Oui. Et pour cela, il a fait comme Louis XIV, il a participé à toutes les cérémonies que sa position de roi lui imposait, notamment les réceptions d'ambassadeurs, les présentations à la cour, les conseils. Oui. Donc la vie politique et la vie de cour, signature des contrats de mariage, par exemple, des membres de la cour, c'est lui qui a repris ce rôle de roi. Ne pas oublier que c'était un système extrêmement pyramidal où tout partait du roi et tout remontait vers lui, et il a parfaitement tenu cette position au centre de la pyramide ou en haut de la pyramide.
Mmh. Il a fait même mieux avec le cabinet secret où il a initié la politique
parallèle. Ça, c'est une deuxième pyramide.
Oui. Alors, il a inscrit son règne donc de ce côté-là, dans la continuité de Louis XIV. Il innove quand même sur un point, notamment avec les soupers dans ces petits appartements que vous présentez d'ailleurs dans l'exposition.
Exactement. Alors ça, c'est une grande rupture avec la vie de cour qui existait sous Louis XIV, qui, si je schématise, ne soupait qu'avec sa famille, exceptionnellement avec des courtisans. Louis XV innove là totalement, vers 25 ans à peu près. Il commence à créer des salles à manger dans les appartements de Versailles, Fontainebleau, Compiègne par exemple. Et là, il choisit les personnes qui vont souper avec lui. C'est-à-dire que ce n'est plus parce que vous avez telle position ou tel titre à la cour que vous étiez invité dans le cabinet, mais uniquement parce que le roi vous avait choisi. Et donc pour les courtisans, ça a été un extraordinaire ascenseur. Il n'y a pas d'autre terme à employer que d'être invité dans ces cabinets, parce qu'on faisait sa cour au roi d'une manière différente et on obtenait beaucoup plus facilement ce que j'appellerais des avantages par ce biais-là. Mmh. Et le duc de Crouy le raconte pertinemment dans ses mémoires. Il a obtenu son bâton de maréchal, son cordon du Saint-Esprit, des avantages pour son fils ou pour sa belle-fille, à travers la possibilité d'être invité et de pouvoir converser directement avec le roi en privé.
Et cette proximité, est-ce que ça veut dire aussi que la naissance ne faisait pas tout? Ou quand même, il y avait, on ne pouvait participer à ces petits soupers que si on était bien né?
Oui, il fallait participer. Pour participer à ces soupers, il fallait faire partie du cercle de la cour, c'est-à-dire appartenir au monde de la noblesse.
Louis XV, je le disais, Yves, le seul roi de France à être né et mort au château de Versailles. Quels sont les changements les plus marquants qui ont été effectués à Versailles sous son règne? En quoi est-ce qu'il a pu, il a modifié le château et son domaine?
Alors, Louis XV, extérieurement, n'a pratiquement pas touché au château de Versailles, mais par contre, c'est à l'intérieur du château que là, il a complètement bouleversé. Il a pratiquement fait faire des transformations partout. Et dans le domaine même de Versailles, c'est la construction du Petit Trianon et du jardin qui l'entourait, jardin transformé par Marie-Antoinette par la suite.
Dans l'exposition, vous montrez un certain nombre d'objets que Louis XV lui-même utilisait à Versailles. Lequel de ces objets vous choisiriez pour nous dire qu'il représente le mieux Louis XV ?
C'est certainement l'objet auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, ce qu'on appelle la pendule de passement dans notre vocabulaire à Versailles, qui est cette fabuleuse pendule astronomique dont vous avez détaillé le mécanisme et qui, par le balancier, permettait de mouvoir les différentes fonctions qu'elle présente, l'heure, les phases de la Lune et la révolution des planètes autour du Soleil. Alors en quoi elle représente bien Louis XV? C'est parce que Louis XV avait une vraie passion pour les sciences et en même temps une connaissance scientifique, ce qui pourrait nous étonner. Les rois de France avaient l'habitude de protéger les sciences, c'était leur rôle, mais là Louis XV le faisait en connaisseur. Et donc cet objet a fasciné le roi de par toutes ses possibilités et il le comprenait lui-même et en plus c'est un objet de démonstration. C'est ça qui est assez fascinant, l'objet est actuellement en restauration et ce sont des éléments qu'on maintenant essaye de redécouvrir de cet objet.
Ça montre encore une fois un aspect de Versailles qu'on ignore trop souvent. On pense toujours au palais des rois. En réalité, c'était la vitrine des savoir-faire français de l'époque.
La vitrine, exactement, des savoir-faire français de l'époque. Du reste, ne pas oublier que le château était ouvert à la visite et on pouvait découvrir tous ces aspects-là, même dans les cabinets intérieurs du roi qui pouvaient être ouverts lorsque le roi était absent.
Oui, une vitrine que Louis XV chérissait, mais son château préféré n'était-il pas choisi le roi? On dit qu'il y recevait plus en seigneur qu'en roi.
Exactement, c'était la résidence. Donc c'est une résidence que Louis XV a achetée. Il s'est passionné pour ce château et il a fait faire de nombreuses extensions. Il a même fait construire un petit château de Choisy, le grand château, le petit château. Les courtisans disaient bien qu'il recevait en seigneur et non pas en roi. Alors à l'origine, Louis XV... comment expliquer? Versailles, Fontainebleau et Compiègne, ce sont les lieux de la cour, ce sont les lieux du pouvoir. Et donc là, il y a un cabinet du conseil, la cour vient au complet. Il choisit les personnes qui viennent l'entourer. ce sont d'abord très souvent les mêmes personnes que l'on retrouve dans les soupers des cabinets. Et ensuite, par extension, à l'instigation de Madame de Pompadour, il élargit le cercle et notamment fait venir sa famille, son fils, Marie Leszinska. Et donc on en arrive au point où c'est Marie Leszinska qui reçoit Marie. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est Madame de Pompadour qui reçoit Marie Leszinska, choisie.
Ah oui, mais elle est chez elle, là, vraiment. Une partie de l'exposition présentée actuellement au château de Versailles fait découvrir aux visiteurs les passions du roi Louis XV, qui aimait la chasse, les sciences, vous l'avez dit, et les livres. Mais aussi de l'architecture. Hormis Versailles, qu'il a largement transformé, il avait des grands projets architecturaux. On est obligé de penser à la place de la Concorde, qu'on appelait la place Louis XV, avec ces bâtiments qui font notre fierté aujourd'hui encore.
Alors, Louis XV avait une vraie passion pour les bâtiments, pour l'architecture. Là, les mémorialistes sont tous unanimes à le reconnaître. Louis XV s'enfermait seul avec Ange Gabriel, son architecte. Et je crois que Gabriel est le seul artiste qui se soit enfermé seul avec le roi, aux grandes dames des courtisans du reste. Alors que d'autres membres de la cour, notamment des portraitistes, pouvaient être avec un membre de la cour qui était là pour assister à l'entretien. Là, pas du tout. Et Louis XV, donc passionné par des bâtiments, vous faisiez allusion aux transformations pour Versailles. Il y a eu la même chose pour Choisy, pour Compiègne, pour Fontainebleau. Compiègne a été reconstruit pour Louis XV, intégralement. Fontainebleau a failli être totalement reconstruit à la demande de Louis XV. Et bien sûr, en corollaire, il s'intéressait à l'urbanisme de son temps. Et beaucoup de places royales ont été élevées sous le règne de Louis XV, même plus que sous le règne de Louis XIV. Parmi les plus célèbres, c'est la place de Nancy, par exemple, la place de la... dédiée à son beau-père, ou de son beau-père dédié à son gendre. À Bordeaux, la place de la Bourse, enfin tout ceci. Alors Louis XV n'a peut-être pas été l'initiateur, mais en tout cas, il a jeté un œil, il s'est intéressé à cet aspect.
Bien aimé, bâtisseur passionné de décor intérieur, le règne a quand même été largement dénigré par la littérature du XIXe siècle, qui a développé au contraire la légende noire de Louis XV. On a jugé son règne désastreux, on a associé ce désastre à la supposée dépravation du roi, et le parousser, il multipliait les amours éphémères avec de jeunes filles que d'ailleurs sa maîtresse lui procurait. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Yves Carli?
C'est le côté
obscur de la
porte. Exactement, de côté obscur de Louis XV, cet épisode d'une dizaine d'années du parc Auxerre, où différentes maisons étaient préparées pour qu'il puisse se recevoir. Enfin, qu'il puisse aller retrouver de très jeunes filles qui étaient choisies parmi des prétendantes que la famille essayait de placer dans le lit du roi à cause de tous les avantages financiers qu'on pouvait en tirer. Donc, c'est une forme de prostitution par la famille pour satisfaire les besoins du roi. C'est aussi la conséquence du fait que Louis XV avait peut-être une sensualité intrinsèque à sa personne, mais également, il n'avait plus de commerce intime avec Marie Leszinska, avec Madame de Pompadour, notamment. Et donc, peut-être, c'était un succès d'année ou un remplacement.
Mais merci Yves Carlier de nous avoir emmenés dans les galeries du château de Versailles, déjà pour visiter cette exposition, une passion d'un roi, aux côtés de Louis XV. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz pour tout à l'heure.
Exactement, et comme à l'habitude, je vous propose un petit indice musical.
On va parler des pingouins, de la banquise.
On va parler des grands pingouins.
Des grands pingouins.
Vous y connaissez en pingouin, Clémentine?
Pas du tout.
Oui, je ma bille au pingouin.
Je crois que Clémentine est au bout de sa vie. Je vous rassure, on parlera aussi de bordel.
Ah bah oui. Des bordels à pingouins, très bien. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, toujours en compagnie de notre invité, Yves Carlier, le commissaire de l'exposition Louis XV, Les Passions d'un roi, qui s'y tient actuellement au château de Versailles. Vous nous racontez en quoi Louis XV était un roi qui se tenait au parfum.
Oui, alors, sous Louis XIV, la chose est bien connue, et là, Yves Carlier pourra nous dire si c'est une légende noire de Versailles, mais la réputation de Versailles, c'est de sentir fort mauvais. Et les gens, encore un peu comme sous la Renaissance, se parfument puisqu'ils ne se lavent. Et on dit qu'ils prennent pour habitude de se soulager derrière les paravents ou derrière des rideaux, car ce qu'on appelle les Éliassins porteurs de coton, c'est-à-dire des serviteurs très ailés qui viennent vous aider dans ces situations-là, se tiennent à leur disposition. Alors, que fait-on à Versailles pour lutter contre les mauvaises odeurs? Eh bien, on fait brûler des cassolettes à longueur de journée pour faire disparaître ces mauvaises odeurs par la fumée odorante. C'est d'ailleurs l'origine même du mot parfum qui est rentré dans la langue française sous la Renaissance en 1528. Et oui, qu'est-ce que c'est que le mot parfum ? L'étymologie du mot parfum, c'est perfumé par la fumée. La fumigation, c'est la forme la plus ancienne du parfumage. C'est des instruments assez pittoresques, à nos yeux, des seringues à eau de parfum, des soufflets, et on imagine des valets dans Versailles avec leurs soufflets et des aspersoirs. On suspend au plafond des pommes de senteur. Ça, la pomme de senteur est vraiment héritée de la Renaissance. On les utilisait dans toutes sortes de tailles et on pouvait les porter à la ceinture, on pouvait même les porter en bague, c'est-à-dire une sorte d'objet d'orfèvrerie, en somme, dans lequel on met des herbes ou des herbes odorantes ou odoriférantes. Bon, on en suspend là au plafond. Et je le disais, donc Louis XIV demande à ce qu'il y ait des orangers dans toutes les pièces, si possible. Lui-même, Louis XIV, dans sa jeunesse, a écouté les leçons de Martial, parfumeur à la cour. On le surnomme le roi très parfumé ou le doux fleurant. Et pourtant, après sa mort, Madame de Maintenon n'hésitera pas à confier à ses proches que l'aura du roi, enfin son sillage, était quand même assez pestilentiel. Hein. Heureusement qu'il utilisait quand même quelques parfums. On dit qu'il apprécie particulièrement les essuiements d'eau parfumée, ce qui, sous la plume de certains historiens du parfum, fait de lui, en somme, l'inventeur de la lingette parfumée. On peut dire une chose pareille, c'est un petit peu tiré par les cheveux, peut-être, Yves Carlier.
Alors, la lingette, le linge parfumé existait depuis la Renaissance, et notamment pour les joueurs de paume.
Oui,
quand on avait fini une partie de paume, on se faisait frotter. C'était le terme employé avec des linges parfumés. Donc, en fait, on enlevait la sueur par ce biais, parce qu'il n'y avait pas d'étuve, tout simplement, pour prendre un bain.
Mm-hmm. En tout cas, sous le règne de Louis XIV, on passe vraiment, on oublie les onguents, les baumes, les huiles, et puis c'est le début des préparations alcoolisées, des flacons. C'est sous son règne que parfums et produits de beauté font vraiment la conquête de toute la noblesse et de la bourgeoisie. Le parfum, c'est très important, il atteste du rang social, il forme autour de la personne un véritable halo qui le prolonge et le magnifie. C'est alors qu'apparaît la première haute colonne créée par Jean-Marie Farina vers 1720, le successeur de Fréminis, père de l'eau admirable. Alors, cette première haute colonne, c'est citron, bergamote, néroli, et on dit que c'est à Madame du Barry que cette haute colonne doit son succès à la cour, et cette haute colonne qui va devenir le premier parfum de diffusion européenne. Et d'ailleurs, Louis XV a à Versailles une distillerie et tout le matériel nécessaire pour fabriquer des parfums. Le 1er janvier, il distribue à certaines dames de la cour des parfums de sa composition. On le disait, il met en vogue la fontaine à parfums, on en voit une qui est exposée dans l'exposition dont nous parlons. Et puis, il fait créer dans les jardins du Trianon un espace qualifié de carré des parfumeurs qui est planté en fleurs destinées à être utilisées pour la fabrication du parfum. Alors, je me suis laissé dire, j'ai lu que ce fameux carré des parfumeurs allait réouvrir au printemps prochain au cœur de Trianon, un carré de fleurs qui raconteront l'histoire du parfum à Versailles, de ses usages à la cour. Mmh. Et c'est un projet réalisé grâce au mécénat d'une grande maison de parfum. On les remercie d'avance, parce qu'on ira.
Vous êtes Yves Carlier, peut nous le confirmer ou pas? Oui.
C'est un projet en cours, pour lequel les jardiniers de Versailles travaillent là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, votre chronique, c'est que il faut imaginer qu'il y a une visite olfactive de Versailles ou une visite sonore de Versailles. Aujourd'hui, c'est une visite visuelle, mais si on veut se plonger dans le château, c'est qu'il faut rajouter les parfums et les sons.
Très bien, merci beaucoup. Merci Clémentine et merci à Yves Carlier. Je rappelle l'exposition Louis XV, Passion d'un roi, dont vous assurez le commissariat, présenté au château de Versailles jusqu'au 19 février prochain. Et le très beau livre qui accompagne l'exposition est disponible aux éditions In Fine. Et maintenant, chers auditeurs, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien. Born to be alive.
Un duel, une joute, que dis-je ? Un mano à mano sans pitié nous attend. Et aujourd'hui, encore plus que d'habitude, car vous êtes dans une égalité parfaite au niveau des scores.
Ah bon ?
J'ai senti de énormément de moqueries du côté de Clémentine.
C'est moche. Mais je crois que ça lui vaut un point moins.
N'essayez pas de m'influencer, je suis incorruptible, vous le savez. On va commencer avec vous, Stéphane. Après les guerres napoléoniennes, les médecins, pour parler des états post-traumatiques causés par l'utilisation d'obus, enfin d'obus explosifs, parlaient d'un syndrome appelé le vent du boulet. Après la Première Guerre mondiale, tous les troubles psychiques et physiques ont été regroupés sous le mot la bombardite. Vrai ou faux ?
Je ne crois pas à la bombardite. Non, j'y crois pas du tout.
Ah, pas du tout ?
Ah, pas du tout.
Non.
Ah, pas du tout. Et vous ?
Non,
Clémentine ?
Non, non,
vous avez
pas.
Dit ? Vous aviez une proposition, j'ai l'impression.
Le blast, c'est le vent du boulet. Le blast, le vent du boulet peut vous désarçonner. Il suffit ça peut, sans vous toucher, passer à côté de vous et vous faire tomber de cheval.
C'est ça, mais là, on parle français, madame.
Non, je ne crois pas. Je peux me tromper.
Moi non plus, la bombardite.
Moi, je fonce comme ça.
C'est ça, vous êtes un instinctif.
Exactement.
Vous êtes un cheval fou.
Oui, exactement.
Allez, on écoute la réponse.
Vous avez gagné.
Bravo. Ce n'était pas la bombardite, c'était l'obusite.
Ah ben voilà.
Après 1918, beaucoup de soldats vont être internés. En Grande-Bretagne, on en dénombrera 120 000.
Ah oui,
en Allemagne, 600 000. En France, malheureusement, on n'a pas les chiffres précis.
C'est pas simplement les blessures liées aux obus. C'est le bruit, en effet, le blast, c'est affreux.
Arrêtez avec le blast maintenant. Hein? Là, on parle d'obusite.
Pour une fois que je connais le mot.
Oui, mais c'est ça. On sent bien que vous voulez le placer absolument.
Bah oui, je veux bien.
Au moins, une question avec un blast. Hein?
Allez, alors, 1535, c'est l'invention du blast par François Ier. Non. 1535, François Ier décide d'intégrer au domaine royal le château de Chenonceau. Henri II, lui, décide de l'offrir, non pas à la reine, mais à Diane de Poitiers, sa favorite. Durant l'occupation allemande, le château est traversé par la ligne de démarcation.
Bah oui.
Oui, sur le Cher, oui.
Voilà. Quand on était dans le château, on pouvait être en zone libre ou pas.
Je crois que le château... Oui, mais c'est pervers votre truc. Parce que
oui, ça, c'est vraiment... Alors là,
le château était en zone occupée et c'est la sortie du château, non pas par l'entrée du public, mais l'autre, là, quand on va se balader dans les bois, au fond de la grande galerie,
oui,
là,
je
vous
pense
entrez
que
en zone
je
libre.
Je pense que Stéphane a raison. C'est tout à fait... C'est d'une berge à l'autre que l'on était en... Au milieu, ça devait constituer... Ben non, au milieu, on était encore...
Très compréhensif.
Oui.
Alors vous dites ?
Je dis que non, on n'était pas en zone libre au milieu du château.
Dites oui, dites que c'était la zone libre. Bon, en fait, c'est la ligne de démarcation.
Ok, bah, le Cher est la ligne de démarcation. Alors est-ce que...
Au milieu,
si vous êtes au beau milieu de la galerie...
Allez, on
vous
écoute,
êtes,
on écoute la réponse.
Vous avez gagné !
C'est vrai. Et d'ailleurs, la résistance s'est servie du château pour passer beaucoup de personnes en zone libre. Göring aussi est venu à Chenonceau, mais pour repérer des œuvres d'art pour le futur musée d'Hitler et pour sa collection personnelle. Vous êtes à égalité, donc une nouvelle question pour Stéphane.
Même si j'avais pas égalité, j'aurais droit à une question.
Non, parce que...
Regardez-moi le petit syndicaliste, là.
Non, puis de toute façon, je fais ce que je peux arrêter ce jeu quand je veux.
Ah d'accord,
Et l'autre, là, qui se prend pour le grand patron. Oh non, mais dites donc.
Allez, au revoir.
Alors,
je m'en vais.
Vous voyez, on aime bien vos questions, finalement.
Ah vous allez aimer celle-là.
On veut des questions.
Histoire de la zoologie, Stéphane.
Savez-vous que le T-Rex avait des poils roses, des plumes roses.
Vous venez de me dire que vous aimiez ces questions.
Je n'aime pas la zoologie.
Bah, écoutez, Aouin.
Je vous écoute.
Je sais que vous connaissez d'autres animaux que le corgi. Oui. J'aimerais évoquer le grand pingouin.
Oui.
Ah, nous
vous
y voilà.
Vous connaissez un grand pingouin.
Le papa pingouin. Oui.
Personnellement, je préfère la version de Sophie et Magali,
d'accord,
qui va représenter la France.
Et donc ?
Alors, on sait qu'il a été chassé par les hommes de Néandertal il y a plus de 100 000 ans. On sait que le dernier grand pingouin a été tué en Islande en 1844. Voici ma question. Est-ce que le grand pingouin dépassait un mètre ? Qui fait un beau pingouin.
Oui,
un beau pingouin de compétition.
Je crois que c'était vraiment un grand pingouin.
Oui, il dépassait un mètre.
Grand pingouin.
Oui, un mètre, c'est ça, dépassé.
Il dépassait largement, hein. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Vous avez un bon sens des proportions. Hein, il dépassait jamais les 85 cm.
Ah, je sais pas, moi, je voyais ça plus grand.
C'est scroc.
Bah, on n'en a pas vu, Stéphane. S'ils ont disparu en 1844.
Mais on était nés.
Bah, j'imagine.
Mais vous étiez enfant.
Ouais, je sais pas. On a dû en voir empaillé, sans doute, un truc comme ça.
Alors, il pesait 5 kilos, il était incapable de voler. On pouvait l'admirer au large du Canada, de la Norvège, du Groenland, de l'Irlande et du nord de la France.
Pourquoi a-t-il disparu, ce pauvre animal ?
Il a été chassé. J'aurais aimé qu'il fasse plus d'un mètre.
Voilà. Non, mais vous avez vu les pingouins avec les yeux de l'amour.
Oui.
Une question pour vous, Clémentine. apprendre sur le tas. Voilà une belle expression. À l'origine, on l'utilisait dans les maisons de tolérance. Le tas désignait les nombreux clients que les nouvelles venues devaient satisfaire. L'expression est née des BMC, comprenez, les fameux bordels militaires de campagne. Vrai ou faux ?
Joue à ma gauche, là, il a l'air de savoir ce qu'il en est.
Bah,
moi, ça
ne
me plaît pas, ça me plaît pas, votre histoire.
Non, ça ne me plaît pas.
Ça me plaît pas, je dis non.
Vous dites non. Vous êtes sûr de vous ?
Moi, j'aurais dit oui, mais bon, comme ça.
Non, non, moi, ça ne me plaît pas.
Mais bon. Truc.
Comme ça ?
Non, pas comme ça. Je Mon esprit est rétif à admettre que cette expression puisse venir de des bordels. Pourquoi ? Alors qu'elle pourrait, vous voyez, ça pourrait être, c'est en forgeant qu'on dit un forgeron, c'est-à-dire que c'est apprendre
oui, c'est
sur
vrai.
Le tas,
ouais.
Ça pourrait être une expression de mineur, c'est-à-dire ouais. À force de constituer d'une expérience dans son travail, on finit par apprendre, et je vois pas pourquoi ça serait. Ça, à mon avis, c'est un truc qui est directement lié à l'esprit pervers de celui qui rédige ses questions et qui veut amuser la galerie en faisant des cochonneries. Je dis non.
Excusez-moi,
je dis non.
Vous commencez à être un peu insolente, là. Respectez
Je dis plus rien, alors, mais voilà. Prenez ma réponse, en tout cas.
Vous dites faux. On vérifie.
Vous avez encore gagné.
Ah, insolente, mais brillante.
Voilà, la moralité, les sauts.
Ah, bah, elle est parpaillote. Hein.
Alors, est-ce que vous voulez quand même savoir ce que c'était
le tas? Allez-y.
Le tas, c'était l'endroit où on taillait les pierres sur un chantier de construction. Apprendre sur le tas, c'était donc apprendre son métier directement sur un chantier.
Ouais, voilà. Mm-hmm. Bravo.
Elle a brisé la série de Stéphane.
Oui.
Il était sur 4 victoires.
J'ai pas eu question facile. Hein. Il y a un mètre de pingouin. Vous m'en mettrez un mètre.
C'est ça.
Merci Clémentine, à demain.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Ivan Jacob et nos personnages du jour qui ont redoré le château de Versailles. Après le bien-aimé Louis XV qui a imposé son style à Versailles, je vous raconte celui qui a investi une partie de sa fortune pour le rénover et le redorer, John D. Rockefeller Jr. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un artiste plasticien qui en a mis aussi à Versailles.
Du plastique ?
Non, de l'or, je veux dire.
Ah oui, c'est vrai, on ne peut rien vous cacher. L'artiste japonais Takashi Murakami a mis de l'or à Versailles avec ses œuvres étonnantes et géantes. Et étonnamment géantes, d'ailleurs.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Un soir de 1923, un milliardaire américain issu d'une des plus riches dynasties tombe amoureux non pas d'une femme, mais d'une ancienne résidence des rois de France qui tombe lentement en ruine et décide de lui consacrer une partie de sa fortune. Je vous raconte maintenant John Davison Rockefeller Jr. qui a inscrit son nom dans la pierre de Versailles. Ce 30 juin 1923, Versailles est telle une belle endormie qui sort soudainement de sa torpeur. La Société des Fêtes Versaillaises a organisé une soirée exceptionnelle où se presse le tout Paris. Les convives sont attendus pour un grand souper des candélabres dans la galerie des batailles. En fait de bougies, c'est à la lumière des lustres électriques introduits pour la première fois au château que dîneront les convives. Les pompiers de service veillent. Pas de quoi gâcher la fête, cependant, qui se poursuit dans la galerie des glaces avec un spectacle orchestré par Serge de Diaghilev. En coulisses, les danseuses vedettes des ballets russes se changent dans les appartements de Madame de Maintenon et dans l'antichambre du roi. De l'avis de tous, la soirée est inoubliable. Mais pour John D. Rockefeller Jr., le milliardaire américain en vacances en France, elle est bien plus que cela encore. Lorsqu'il met le pied à Versailles, 17 ans après sa dernière visite, John D. Rockefeller Jr. a presque 50 ans. Oui, il est né dans les années 1870 à Cleveland, dans l'Ohio. Il est le cinquième enfant, mais unique garçon de John Davison Rockefeller, le fondateur de la Standard Oil Company et tout simplement l'homme le plus riche du monde. Le patriarche Rockefeller, issu d'une famille modeste, a fait fortune en exploitant les ressources en pétrole des sols américains. C'est un homme d'affaires aussi génial qu'impitoyable et détesté pour sa position de monopole obtenue par des moyens pas toujours reluisants. John D. Jr., lui, ne ressemble pas à son patriarche. Il n'a pas un sens aussi affûté des affaires. Après des études à l'université de Brown, il l'a pourtant rejoint, en 1897, à la tête de l'entreprise familiale. Mais dans les années 1910, il quitte la société pour se consacrer à la fondation familiale qui vient de voir le jour et à ses œuvres philanthropiques destinées à promouvoir le progrès scientifique dans le monde entier. Pour la deuxième génération, financer des actions culturelles, éducatives, scientifiques et médicales, construire des hôpitaux, des dispensaires et des écoles, est aussi le moyen de redorer le nom des Rockefeller.
John Dee Jr. s'intéresse en outre sincèrement aux arts. Aussi, lorsqu'il vient visiter le château quelques jours après la soirée féerique de Versailles avec son épouse Abby Aldrich et 4 de leurs 6 enfants, le milliardaire est accablé par ce qu'il découvre dans la lumière crue d'une journée d'été. Le spectacle n'est plus du tout le même. En réalité, la fête du 30 juin était un événement caritatif destiné à collecter des fonds pour le château qui en a terriblement besoin. Partout, les parquets s'affaissent, les toitures prennent l'eau. Celles du hameau de la Reine sont même recouvertes de bâches inesthétiques. Les marches qui descendent vers le parc sont brisées. Les canalisations des bassins du parc ne fonctionnent plus. Les grilles en fer forgé de l'orangerie tombent en ruine. Et même le char d'Apollon, statue emblématique des jardins, se fissure. Le château a pâti de la guerre. Il a vu partir ses agents au front et fuir ses visiteurs habituels. La dernière grande campagne de rénovation date des années 1830 et 1840. Et le fonds alloué par l'administration des bâtiments historiques est loin, mais très loin, de suffire devant l'ampleur des travaux nécessaires. De retour aux États-Unis, Rockefeller Jr. ne tarde pas à agir. Au printemps 1924, il adresse une lettre au président de la République, Raymond Poincaré, l'informant de sa décision d'une aide $1 million, soit 20 millions de francs, au patrimoine français, dont la moitié pour le seul domaine de Versailles. L'autre partie de la somme doit servir à la restauration du château de Fontainebleau et de la cathédrale de Reims. La répartition des fonds est confiée à un comité indépendant, le comité franco-américain pour la restauration des monuments, dont les membres sont nommés par Rockefeller. Mais le philanthrope laisse faire les experts. À peine glisse-t-il quelques exigences, comme celle de consacrer en priorité les fonds aux espaces clos et couverts, c'est-à-dire aux bâtiments, et de nettoyer la cour d'honneur des imposantes statues installées là par le roi Louis-Philippe au siècle précédent. Ces dons ont surtout pour ambition de stimuler l'engagement de l'État français dans la préservation de ces monuments. Et cela fonctionne. La même année 1924, l'Assemblée nationale vote la location annuelle de 4 millions de francs au domaine de Versailles, puis de 5 millions quelques années plus tard. Les travaux commencent en 1925, dirigés par Patrice Bonnet, l'architecte en chef du domaine. Il lance d'abord les restaurations lourdes et urgentes, celles qui touchent à la structure du bâtiment. Il faut restaurer les charpentes et les toitures pour mettre fin aux infiltrations. Pour que ces travaux résistent au temps, les matériaux d'origine, comme l'ardoise, sont remplacés par des plaques de plomb jugées plus solides. Peu à peu, le château reprend vie et les visiteurs retrouvent le plaisir de découvrir la demeure des rois de France. Dans la presse, John D. Rockefeller Jr. est décrit comme un sauveur. En 1926, il est fait citoyen d'honneur de la ville de Versailles. Ses largesses font grand bruit. D'autant que 3 ans plus tard, en 1927, le milliardaire fait un nouveau don, encore plus généreux, à la France. Près de $2 million, soit 40 millions de francs, cette fois-ci précisément répartis entre les 3 monuments français. Pour Versailles, ce sont 23 millions de francs, dont 14 pour le château, 7 pour les Trianon et un peu plus d'1 million pour le hameau de la Reine, l'endroit préféré de John Dee Jr. Armés de livres conservés aux archives nationales, les architectes sont capables de rétablir avec la plus grande précision le plan des allées, la hauteur des haies, la forme des tonnelles et jusqu'aux céramiques qui décoraient les balcons au temps de Marie-Antoinette. Pour observer l'avancement des travaux, John Dee Jr. organise 5 voyages transatlantiques jusqu'en 1936. Le 30 juin de cette année-là, 13 ans jour pour jour après la fête somptueuse qui le fit tomber en amour pour Versailles, le généreux mécène inaugure le bosquet des Rocailles, fraîchement restauré, et l'avenue bordant le château, baptisée en son honneur l'avenue Rockefeller. S'il meurt très loin de Versailles en mai 1960, à Tucson, Arizona, John Davison Jr. est certain d'une seule chose. Il a réussi à associer à jamais le nom de sa famille à l'un des joyaux de l'histoire de France. Un joyau restauré pour qu'à travers le temps, les ors de Versailles continuent de rayonner à travers le monde.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de John Dee Rockefeller Jr., nous avons le plaisir d'accueillir une historienne de l'architecture. Bonjour, Églantine Pasquier.
Bonjour, Stéphane Bern.
Vous avez travaillé sur le mécénat Rockefeller au profit du château de Versailles. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi un milliardaire américain comme Rockefeller a décidé de restaurer le patrimoine français. Historiquement, il existe un attachement des Américains à Versailles et son château. Est-ce que c'est lié au Cincinnati? Est-ce que c'est lié à l'engagement du roi Louis XVI pour l'indépendance des insurgés américains?
Oui, exactement. En fait, historiquement, les Américains sont très attachés à Versailles, puisque c'est depuis Versailles que Louis XVI décide d'envoyer un soutien militaire aux insurgés pour les aider à prendre leur indépendance de l'Angleterre. Et c'est aussi à Versailles qu'est signé le traité d'indépendance américaine en 1783, quelques années plus tard. Et il y a d'ailleurs une rue à Versailles encore actuellement qui s'appelle la rue de l'indépendance américaine qui rappelle cet événement. Et Versailles apparaît donc pour les Américains comme un lieu fondateur de la jeune République. Et c'est alors en partie pour ça que Rockefeller s'intéresse à l'histoire de Versailles. Mais il fait aussi preuve d'un réel intérêt pour l'architecture. Et il est important de souligner qu'il s'agit de sa philanthropie personnelle. Donc en fait, c'est pas une philanthropie qui est liée à la Fondation Rockefeller, c'est pas une philanthropie institutionnelle, c'est vraiment sa philanthropie personnelle sur ses propres fonds, et elle illustre vraiment ses centres d'intérêt et ses passions.
J'ai raconté dans quel état se trouve alors le château de Versailles quand Rockefeller s'y rend en 1923. Et c'est vrai qu'on a en tête la majesté actuelle de la bâtisse et de ses galeries, l'éclat du domaine parfaitement entretenu. Or, quand on regarde les photographies de l'époque, ben on se rend compte que la réalité est tout autre.
Oui, alors le château est vraiment dans un état inquiétant. Pour ce qui est des bâtiments, les dommages ne sont pas forcément visibles au premier abord, puisque le palais se dresse encore fièrement devant les visiteurs. Ils ne se doutent pas forcément de la gravité de son état, puisque les dégâts sont surtout structurels. On parle de toitures qui fuient, de poutres qui soutiennent les planchers, qui tombent en ruine, en fait, qui pourrissent. C'est la santé interne du bâtiment qui est menacée, même s'il fait encore bonne figure. Et là où les dégâts sont surtout visibles, c'est dans les jardins, où les bassins sont asséchés, ils sont envahis par les herbes folles, les statues sont recouvertes de mousse, les allées et les charmilles en fait ont perdu leur caractère géométrique en fait qui a fait leur renommée, et cela donne au parc et au jardin un côté un petit peu de ruine romantique auquel les gens se sont presque habitués et qui a même été parfois chanté par certains poètes.
C'est la Première Guerre mondiale qui a accéléré le délabrement du château de Versailles. Quel fonds permettait son entretien avant la guerre de 14?
Alors oui, exactement. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, le palais souffre d'un manque d'entretien, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puisque la plupart des hommes valides sont envoyés au front, pénurie de matières premières qui sont nécessaires à son entretien, puisqu'en fait, l'ensemble des ressources à disposition sont dédiées à l'effort de guerre. Et ce qui fait d'ailleurs dire aux conservateurs et aux architectes à l'issue du conflit que Versailles est une victime indirecte du conflit. Donc, contrairement à d'autres monuments comme la cathédrale de Reims, le château n'a pas été bombardé.
Oui, la cathédrale a été bombardée. Voilà. Il a fallu refaire la toiture, la charpente, enfin,
qui avait entièrement brûlé.
Oui, tout avait brûlé, absolument. Ivan.
Églantine Pasquier, avant de faire cette donation exceptionnelle de plusieurs millions de francs, est-ce qu'il avait demandé des contreparties de la part de l'État français, Rockefeller?
Alors oui, en fait, Rockefeller a imposé une seule et unique condition à sa donation, qui était celle que l'État s'engage à financer, à même hauteur que lui, un programme de travaux complémentaires dans chacun des monuments concernés. Et cela, en fait, ça correspond à sa vision de la philanthropie. Il voulait que son geste soit utile, il voulait remédier aux causes du problème, en plus de résoudre le problème lui-même. En fait, c'est ce qui différencie la philanthropie de la charité. Et il voulait accompagner l'État plus que prendre sa place. En fait, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, en se rendant en France en 1923, il a vu que des efforts étaient faits pour restaurer le château. Il a vu qu'il y a des choses qui étaient mises en place, mais il s'est aussi rendu compte que l'ampleur des travaux était telle que l'État tout seul n'y arriverait pas.
Il voulait pas que ce soit juste un seul coup, quoi, que ça dure dans le temps.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il voulait que sa philanthropie fasse vraiment la différence. Il avait conscience d'être l'un des seuls en mesure à apporter la somme nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'il a fait cette donation. Et finalement, l'État français était à la hauteur. Même si ça n'a pas été tellement dit, en fait on parle de Rockefeller comme le sauveur de Versailles, mais l'État était à la hauteur de son engagement et n'a pas vraiment insisté sur l'ampleur de son action, puisque but était aussi de mettre en avant la figure du mécène pour encourager d'autres potentiels donateurs.
Mécène à le faire, bien sûr. Cette donation a eu des conséquences utiles pour les relations diplomatiques avec les États-Unis. Il faut rappeler que le contexte, on est juste après la Première Guerre mondiale, la France a contracté des dettes auprès des États-Unis et peut-être que ça pouvait aider.
Oui, exactement. En fait, on est vraiment dans un contexte pendant l'entre-deux-guerres où les relations franco-américaines ne sont pas au beau fixe. Les relations sont empoisonnées par la question des dettes de guerre.
Et les États-Unis sont aussi dans une position de repli, ils refusent d'adhérer à la Société des Nations. Le geste de Rockefeller est vraiment perçu comme un geste d'amitié, un geste d'ouverture, une main tendue vers la France pour renouveler un petit peu ses sentiments franco-américains qui avaient été assez forts pendant la guerre. Et je pense notamment aussi à la seconde donation de mai 1927, dont l'annonce intervient quelques jours après la première traversée de l'Atlantique de Charles Lindbergh, de l'aviateur Lindbergh, qui a suscité un engouement considérable en fait de part et d'autre de l'Atlantique. La presse à l'époque est unanime à souligner le fait que l'action conjuguée de Lindbergh et de Rockefeller a fait bien plus que l'action de l'ensemble des diplomates depuis la fin de la guerre pour réchauffer les relations entre les deux pays.
Est-ce que d'autres mécènes américains ont déclaré leur amour pour Versailles, par exemple, pour le patrimoine français? Est-ce qu'il a ouvert la voie?
Oui, exactement. Rockefeller, en faisant ce geste, a ouvert la voie au mécénat américain à Versailles. Alors bon, ça a été compliqué pour d'autres par la suite d'avoir un geste d'une ampleur aussi grande, parce que tout le monde n'a pas la fortune de Rockefeller. Ses fils, dans les années 50, ont eux aussi fait une donation dans le cadre d'une campagne nationale qui s'appelait la sauvegarde de Versailles. Et l'action des Américains à Versailles se poursuit encore aujourd'hui avec l'action des American Friends, qui sont toujours très actifs et qui financent des projets d'ampleur assez majeure.
Et pendant longtemps, il y a eu Catherine Hamilton, par exemple, qui était une grande mécène, grâce à qui on a pu restaurer, je crois, les bosquets, notamment...
Le bosquet des Trois Fontaines,
oui.
Et le dernier projet en cours, il me semble que c'est le bosquet de la Reine, qui est aussi en cours de restauration par les amis américains de Versailles.
Jean-Luc?
À donation exceptionnelle, il faut bien des honneurs exceptionnels. Le souvenir de Rockefeller plane encore aujourd'hui au château de Versailles?
Oui, puisqu'en fait, la grande allée semi-circulaire qui borde le château, donc quand on arrive à Versailles, porte le nom de Rockefeller. Et ensuite, quand on rentre dans le château, donc dans le vestibule de l'escalier Gabriel, il y a une grande plaque qui rappelle l'ampleur de son geste pour servir un petit peu de modèle et inspirer d'autres mécènes. Donc voilà, son souvenir plane encore à Versailles.
Merci beaucoup, Églantine Pasquier, de nous avoir raconté le sauvetage par John D. Rockefeller Jr. de ce joyau du patrimoine français qu'est le château de Versailles.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Ivan Jacob, on réunit des personnages qui ont redoré le château de Versailles. Après Louis XV et John D. Rockefeller Jr., vous nous racontez, Jean-Luc, l'artiste plasticien qui a mis de l'or, et pas que à Versailles, Takashi Murakami.
C'est de l'or. Oui, c'est de l'or. C'est de l'or que tu mets dans mon corps. Je ne sais plus si c'est Blaise Pascal ou Jennifer qui a dit ça. Mais c'est exactement ce que pourrait nous dire le château de Versailles s'il pouvait parler.
Previously, on historiquement vôtre.
Comme nous l'avons vu précédemment avec les récits de Stéphane, la tendance déco dans les Yvelines pendant des siècles, c'était du golden et du golden. C'est joli, ça brille, mais ça sent un peu la vieille Pompadour qui aurait oublié de vider son pot de chambre. Surtout au XXIe siècle, quand il s'agit d'attirer toujours plus de monde et de renflouer les caisses d'une destination touristique majeure. Et pour ça, Jean-Jacques Ayagon, président du château de Versailles de 2007 à 2010, a la solution. Provoquer, déranger et susciter la curiosité en organisant une petite partouze artistique entre l'art du château et l'art contemporain international. Alors qui dit art contemporain dit parfois reste de repas sur une toile blanche, mais aussi et surtout Takashi Murakami. D'ailleurs, je me permets de répondre à votre SMS d'hier, cher Stéphane. Takashi, c'est bien le prénom d'un artiste ultra influent et mondialement connu. Absolument pas un dérivé du Shibari, le bondage japonais. Et non, je ne veux pas me faire appeler Tsatsuki et porter une petite jupe d'écolière à votre fête du 31. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt. Mais moi, je ferai pas ça pour vous.
Ah, d'accord,
je suis désolé.
C'est pas pour moi, merci.
Donc, Jean-Jacques a appelé Takashi pour qu'il expose ses œuvres au château, histoire de pimper un peu le mobilier. Évidemment, l'univers kawaii saturé de couleurs, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais comme disait Marie-Antoinette, Balek, il y a pas de mauvaise publicité. Ou, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent du manga. Souvent surnommé le Warhol du Japon, Takashi Murakami est réputé pour son talent à brouiller la frontière entre l'art et la consommation. Son œuvre, très joyeuse aux couleurs vives, s'inspire de la sous-culture japonaise de l'otaku. Un terme utilisé pour décrire des personnes à fond dans le loisir d'intérieur. Manga, vidéo, animé, tout ce qui te permet de rester chez toi pépouze. Oui, pendant le confinement, nous étions tous un peu des otaku. Et tout ça a donné naissance au mouvement artistique Superflat. Un mouvement qui glorifie le mélange de l'art et du commercial. À ne pas confondre avec le mouvement Superfat, qui glorifie le mélange du lard et de l'émental.
C'est un jardin extraordinaire.
Dans l'œuvre de l'artiste japonais, il y a de la fleur avec des gros yeux, des champignons qui rigolent, et Mr. Dob, une de ses créations les plus populaires, un personnage hybride aux dents acérées, à mi-chemin entre Sonic le hérisson, Mickey, et un bisounours sous acide. Très vite, l'œuvre de Murakami dépasse les frontières du Japon. Il devient une mégastar en mai 2003 lorsque Miss Kaokare, ou Miss Coco, sa sculpture en fibre de verre d'une serveuse blonde au gros sein, ressemblant étrangement à Sailor Moon, est vendue aux enchères pour 567 500 $. Un record pour une œuvre d'un artiste japonais contemporain. Murakami touche à tout et il vend tout. Des peintures, des sculptures, des vidéos, des t-shirts, des sacs à main, des porte-clés, des tapis de souris, des poupées, des figurines et des étuis d'iPhone. Presque comme un influenceur à Dubaï. La différence près que Murakami, lui, il a du talent. Bon, est-ce que Louis XIV l'aurait pour autant invité au château pour partager une ballotine royale de faisan ou un petit cucu de courtisan après plusieurs bouteilles de vin de champagne? Jean-Jacques Ayagon dit oui. Si Alain Ducasse a ouvert un resto à Tokyo, et si Jean Reno se permet de renouveler ses heures d'intermittent avec une pub pour Toyota, Murakami peut bien se tremper la tatane dans le bassin de Neptune. Et voilà que Takashi débarque dans 78 avec ses grosses fleurs, ses monstres et ses bouddhas géants. Et autant vous dire que ça tape à l'œil. Murakami s'explique. Pour nous, Japonais, le château de Versailles est tellement différent de notre culture, j'ai voulu créer l'effet inverse pour que les Occidentaux ressentent un dépaysement. Au menu donc, ovale, c'est comme ça qu'il s'appelle, le bouddha géant de plus de 5 mètres en bronze doré à la feuille, planté dans les jardins de le nôtre. Son pote, plus petit en argent, médite lui dans le salon d'abondance. Dans la galerie des glaces, entre deux touristes en pantacourt, on retrouve Flower Matango, qui non n'est pas un nom de drag queen, mais une structure géante, mi-fleur, mi-kyste géant, toute pleine de couleurs. Et notre Miss Coco et sa poitrine avantageuse squattent le salon de la guerre. En tout, 22 œuvres majoritairement inédites sont présentées dans cette exposition à 2,5 millions d'euros. Mais l'establishment français est colère. Oh que oui! Ça nous en a énervé des fanatiques en mode « Mon Versailles, ma bataille » et autres royalistes nostalgiques déballés en collant compresseur de testicules. Résultat, une pétition en ligne intitulée « Versailles, mon amour », une menace de manifestation devant les grilles du château et finalement, 900 000 visiteurs durant 3 mois et une hausse de 10% de la fréquentation sur l'année. Merci Murakami. Alors c'est de l'art, chacun le perçoit comme il veut et surtout comme il peut. Et j'aimerais finir ce portrait en rendant hommage à un autre artiste qui a contribué à redorer Versailles et ce bien d'avant Murakami. C'est notre Meryl Streep du téléfilm régional, notre Pierre Ninet à cheveux souples, notre défenseur de la clé de voûte et de l'ogive, il est juste là à mes côtés, Stéphane Bern. Alors, Ivan, est-ce que vous savez pourquoi Stéphane a fait du bien à Versailles?
Comment? J'ai des petites idées, mais dites-moi.
Eh bien, à ses débuts, en se faisant engager au château à 17 ans, comme dame pipi.
Hôte d'accueil. C'est moi qui ai plaisanté en disant que j'étais dame pipi.
Ah, mais j'aimais bien.
Ben oui, parce qu'hôte d'accueil, vous passez
C'est quoi
votre
les
temps,
fonctions?
Vous accueillez le public et la seule question que les gens du monde entier vous posent, « Where are the loo? Where are the toilets? » Vos indies, des toilettes, dans toutes les langues.
Ça, ah,
dans
toutes les langues.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Avec plaisir.
Mais c'est pas mal. C'est vrai que ça a attiré du monde. Mais... Et surtout, ils ont un problème, si vous voulez, c'est que le public est à 78-80% est étranger ou provincial. Ils n'ont pas de public parisien. Pour faire venir les franciliens, il fallait des expositions d'art contemporain.
Et le contrat, c'était magnifique.
Ouais, mais c'est pas mal. Ça fait réfléchir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont redoré le château de Versailles pour retrouver deux chroniqueurs qui redorent l'image de notre émission. David Cassel-Lopez, vous remontez aux origines du cri de Tarzan.
Peut-être le cri le plus célèbre de l'histoire du cinéma.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle mode avec vous, Ivan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte il n'y a pas si longtemps, c'est au début des années 70, pour un défilé très particulier qui a eu une importance décisive dans l'histoire de la mode.
Alors, Jean-Luc, Stéphane, vous connaissez Marignan, Austerlitz, Waterloo.
Oh, bien sûr.
Je ne vous fais pas l'affront de vous demander les dates.
Ben
mais...
si, on peut dire 1515.
Ah, c'est sûr que j'avais. 1515, je l'avais Marignan. Ouais, les autres.
1802.
Et ensuite
Waterloo.
1815.
Ok.
18 juin,
je
1815.
Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Mais est-ce que vous connaissez la bataille de Versailles? C'est ça dont je veux vous parler. Et je suis très contente de vous en parler parce qu'elle n'est pas très connue, cette bataille-là. Y compris dans le monde de la mode, elle a été un peu oubliée. C'est vrai qu'en 1973, le monde avait un peu d'autres chats à fouetter, comme une crise pétrolière majeure. Mais il s'est passé une bataille de la mode exceptionnelle, un défilé de mode gigantesque avec 10 créateurs, 5 américains contre 5 français, pas de canon, pas de fusil, pas de blessés, enfin si, peut-être une, la France, blessée dans son orgueil. Tout se passe en quelques heures, en une soirée froide et neigeuse, celle du 28 novembre 1973, il y a presque 50 ans donc. Alors vous allez me dire, pour commencer, qu'est-ce qu'une bataille de la mode ?
Oui, qu'est-ce qu'une bataille de la mode,
Ivan ? Je vous connais. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un événement fréquent, hein, c'est tout à fait exceptionnel. Et cette soirée franco-américaine de 73, elle est à l'initiative de deux personnes. Côté français, Gérald Van der Kamp, comme Brie Van der Kamp
dans ah oui, on, dit
on dit Kemp.
Kemp.
Pour faire la différence de Gérald Van der Kemp.
Eh ben oui, parce qu'il est français, ce Gérald.
Oui.
Et il a vraiment existé. Il est, à cette époque, conservateur en chef du château de Versailles. Et lui, son but, c'est de récolter des fonds pour le château, qui en a bien besoin, en conviant 700 invités très riches, dont des stars aussi stars qu'Andy Warhol et Elizabeth Taylor, et en leur faisant payer $235 le ticket d'entrée. Et côté américain, c'est Eleanor Lambert, la cofondatrice de la Fédération de la mode américaine, qui organise la soirée. C'est une personne extrêmement importante, Eleanor Lambert, puisqu'elle a fondé la Fashion Week de New York, quand même, et aussi les galas du Met, vous savez, ces soirées qui permettent à Katy Perry de venir habillée en hamburger ou en chandelier.
Ah oui, ça c'est chaque année, c'est l'événement quoi.
Exactement, c'est important dans la mode. Mais Eleanor Lambert, sous couvert de philanthropie, elle a surtout une idée derrière la tête, celle de mettre en lumière le travail, la carrière et la renommée de 5 petits poulains américains, 5 créateurs, Oscar de la Renta, Bill Blass, Alston, Stephen Burrows et Anne Klein.
Ah oui, parce qu'à l'époque, ils sont beaucoup moins connus que tous nos créateurs français.
Bah, il faut bien comprendre qu'à l'époque, les États-Unis sont encore le parent pauvre de la mode et Paris en est sa capitale indiscutable. Les fabricants américains, ils payent le droit de recopier les modèles français, des modèles signés de noms aussi prestigieux que Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent et Christian Dior, trois maisons qui représentent la France à la bataille de Versailles. Mais Christian Dior est décédé à cette époque, hein, c'est le directeur artistique Marc Bohan qui représente la maison. Et les deux autres couturiers de cette soirée sont Pierre Cardin et Emmanuel Ungaro. Alors sur le papier, évidemment, il n'y a pas photo. La crème de la couture parisienne d'un côté, dans un pays qui dicte la mode depuis plus de 300 ans, face à des créateurs de prêt-à-porter d'un pays où l'industrie est tout juste naissante, les Américains sont les gros outsiders, évidemment. Et pourtant, c'est ce prêt-à-porter qui va ringardiser la couture et ses règles un peu vieillottes.
Mais comment alors ils vont faire ?
Alors en fait, les Français, qui sont peut-être un peu orgueilleux et sûrs d'eux, même si c'est pas leur genre, hein, on les connaît, ont sous-estimé l'ampleur des changements en cours dans l'industrie mondiale de la mode. Dans l'Opéra Royal de Versailles, ils présentent un long spectacle de 2 heures dans les règles de l'art, magnifique, techniquement parfait, mais un poil traditionnel. En face, les Américains sont tout tremblants. L'histoire, c'est vraiment celle de Sister Act, si vous connaissez le film. Ils ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de prestige. Ils n'ont même pas eu les bonnes dimensions de la salle pour organiser leurs répétitions. Ils n'ont quasiment aucun décor. Ils ont 3 ampoules et une bande-son enregistrée sur une cassette. Et pourtant, c'est eux qui vont voler le show, comme on dit, outre-Atlantique. Sur le podium, les mannequins montrent qu'elles sont à l'aise, qu'elles ont de l'allure dans des tenues beaucoup plus sportswear, beaucoup plus décontractées que celles de la haute couture. Et surtout, c'est les mannequins afro-américaines qui vont faire toute la différence. 10 mannequins noirs, près d'un tiers du groupe, ce qui est totalement inédit hein, pour l'époque. Les filles dansent, elles jouent des personnages sur scène, elles donnent véritablement vie aux tenues qu'elles portent. Et le défilé américain, qui ne dure qu'une trentaine de minutes, ça va être 30 minutes de joie, de fête, de liberté, vraiment exceptionnel par rapport au défilé français. Comme une petite tornade qui s'abat sur Versailles et qui laisse la bonne société française, ben, tout ébouriffé. Et la presse américaine est unanime. Dès le lendemain, leurs créateurs ont conquis Versailles. Le Women's Wear Daily adapte la formule Veni Vidi Vici en titrant « Les Américains sont venus, ils ont cousu, ils ont eu le dessus ».
Bien vu.
C'est moi qui l'ai traduit.
Vous l'avez traduit, oui.
Sinon, ça faisait conquis, ça rimait pas. La presse française, elle, est évidemment un petit peu plus discrète.
Et, mais alors, pourquoi ça a changé la face de la mode ?
Eh bien, c'est un peu l'acte de naissance de la mode américaine, enfin reconnue sur la scène internationale, qui préfigure la venue d'Américains à la tête de vieilles maisons européennes, comme Tom Ford chez Gucci plus tard et Marc Jacobs chez Louis Vuitton. Mais cette bataille de Versailles, elle symbolise surtout une révolution à une époque charnière dans l'histoire de la mode, la victoire définitive du prêt-à-porter sur la haute couture.
Bravo! Mes aïeux, quelle époque! Pour en savoir plus encore sur cette nuit qui a changé la mode, je vous invite à lire, chers auditeurs, la bataille de Versailles signée de la journaliste Robin Givan. un livre traduit en français aux éditions Séguier. Merci beaucoup Yvan Jacob.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, eh bien, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Yvan Jacob, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, puisqu'on remonte aux origines du cri de Tarzan.
Qui est Tarzan? Tarzan, c'est le fils d'un couple d'aristocrates anglais en voyage en Afrique, qui se font tous les deux zigouiller, et lui, il ne se fait pas zigouiller, il est encore bébé à ce moment-là, et il est recueilli par des singes qu'il élève, et Tarzan, il devient une sorte d'homme-singe qui ressemble physiquement à un homme, mais qui, ayant été élevé par des singes, a acquis des compétences très très rares chez les êtres humains, comme le fait de se déplacer de liane en liane dans la jungle de façon hyper décontractée. C'est ouais, remarquable, c'est la décontraction de Tarzan quand il fait ça. La capacité aussi à communiquer avec les animaux dans leur langage. Il peut parler avec les lions, avec les girafes, tout ça. Et aussi une sorte de cri incroyable. Alors, Tarzan, ce n'est pas une histoire vraie, hein. C'est un personnage de fiction créé en 1912 par un romancier américain qui s'appelait Edgar Rice Burroughs. Et donc, pendant longtemps, si vous voulez, le cri de Tarzan, ça n'a été qu'une description faite par Burroughs et qui est la suivante. Tarzan a le cri d'un grand singe victorieux. Vous voyez, c'est un petit peu énigmatique, c'est pas très précis. Mais le truc, c'est que très vite, Tarzan a été adapté au cinéma. Alors d'abord, il a été adapté au cinéma muet, donc le problème du son ne se posait pas. Voilà. Alors on voit l'acteur qui crie comme ça, mais il n'y a pas de cri. Et puis, en 1929, a été réalisé le premier film de Tarzan sonorisé. Et c'est là que le cri de Tarzan est né. On l'écoute.
Yeah, yeah, yeah.
Mais qu'est-ce que c'est que ce cri?
Mais ça, c'est Tarzan qui s'est pris quelque chose sur le pied, là.
Eh ben non, c'est le premier cri de Tarzan par la première personne qu'il a joué dans un film sonore. Et on voit bien que ça n'a rien à voir avec le cri de Tarzan qu'on connaît, puisque celui qu'on connaît, c'est celui du plus célèbre Tarzan de tous les temps.
Johnny
Weissmuller, ancien champion
de natation, autrichien.
Champion olympique de natation. Je crois que c'est le premier qui est passé sous la minute aux 100 mètres. Et ce cri de Tarzan de Johnny Weissmuller, il a retenti pour la première fois dans Tarzan l'homme singe en 1932. Et donc ça, c'est peut-être, je le disais, le cri le plus connu de l'histoire du cinéma. Je pense que c'est le seul cri connu de l'histoire du cinéma. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Alors, le cri de Tarzan, il a une caractéristique principale qui le rend difficile à faire. Attention, c'est un petit peu technique, ce que je vais dire. C'est que le cri de Tarzan, il oscille rapidement entre la voix de poitrine et la voix de tête. La voix de poitrine, c'est une voix qui vient, comme son nom l'indique, de la poitrine, comme ça. Et la voix de tête, c'est une voix qui vient de la tête, qui fait... Vous voyez, donc si je passe de l'un à l'autre à l'octave, ça fait...
Là, c'était plutôt un film d'angoisse, là.
Un petit peu. Et ça, est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Cette façon de passer de la voix de poitrine à la voix de tête.
On dirait un gyrophare ou une sonnerie de pompier.
Mais non, c'est la caractéristique principale, en moins bien fait chez moi, du yodel.
Ah mais oui, bien sûr. Qui est une en plus, il était autrichien. Là.
Exactement, qui était une façon de chanter née dans les montagnes Schleu et qui fait, vous le savez tous, comme ça. Au passage, il y a même des gens qui s'amusent à reprendre Dja Dja de Aya Nakamura en yodel. Et donc, d'après les gens qui se sont penchés sur la question, l'une des inspirations pour le cri de Tarzan, c'est le yodel. Mais maintenant, il y a une question beaucoup plus épineuse.
Oui. Qui a fait ce cri?
Est-ce que ce cri, c'est Johnny Weissmuller lui-même qui l'a poussé? Ou alors,
est-ce que c'est un être humain?
Ou alors, est-ce que c'est un son de synthèse créé par un ingénieur du son? Alors déjà, Johnny Weissmuller lui-même, il a toujours dit que c'était lui, tout seul, et qui avait fait ce cri, et qu'il avait été inspiré par des voisins allemands qui yodelaient à côté de chez lui quand il était petit. Mais ça, c'est ce qu'il dit lui. Parce que la MGM, qui était le studio qui a produit Tarzan, eux, ils disent que c'est un son de synthèse fait à partir de 6 sons différents trafiqués. 1, le cri d'une hyène jouée à l'envers. 2, une note chantée par une chanteuse d'opéra avec des changements de vitesse de lecture. 3, le grognement d'un chien. 4, le bêlement d'un chameau. 5, une note de violon. Et enfin 6, quand même, un morceau de cri de Johnny Weissmuller. Il y a d'autres versions de l'histoire qui disent que ce sont les voix de 3 chanteurs les unes sur les autres, mais je vous avoue quelque chose, j'ai pour ma part une intime conviction. Et cette intime conviction, c'est que Que ce soit Johnny Weissmuller ou pas, ce son, il est entièrement trafiqué. Et la principale raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je n'ai trouvé aucun enregistrement de quiconque qui parvienne à faire le son exactement comme on l'entend sur la bande. Alors, il y a bien Stéphane Bern qui a essayé il y a deux ans dans cette émission. Voilà, c'est raté, hein, on peut le dire, je pense, comme ensemble, collégialement, c'est raté. Mais il y en a d'autres qui ont essayé, et même des gens très doués. Le plus proche qu'on trouve, c'est quand même la version d'une actrice américaine qui s'appelle Carol Burnett et qui fait la chose suivante.
Ah oui, bien.
Vous voyez, bon, c'est pas mal, mais je veux repasse le vrai pour qu'on voit la différence. Vous voyez, j'y crois pas. Alors Johnny Weissmuller, lui, il est toujours resté sur la version que c'était lui tout seul. Et il a passé sa vie à faire le cri, bien après avoir cessé d'être Tarzan, jusqu'à sa mort même, dans les années 70, alors qu'il avait déjà 70 ans. Il a eu des problèmes de cœur, Johnny Weissmuller, il a même fait une attaque cérébrale. Et du coup, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Et là, le directeur de l'hôpital s'est plaint que Johnny, il réveillait les patients de l'hôpital la nuit en faisant le cri. Et moi, je trouve ça très, très touchant.
Merci, David.
Ben, je vous en prie.
Ah, bon, je vais pas le faire. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, et évidemment sur le site europe1.fr. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les émissions. Et voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe. Et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont charmé le roi. Des amantes royales. Cato la Borgnesse, qui aurait eu le privilège d'apprendre au roi Soleil l'art et la manière d'agir avec les dames. Puis Gabrielle Destrée, qui a conquis Henri IV devenant sa maîtresse pendant de longues années. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une maîtresse de roi plus récente, devenue désormais reine consort.
Oui, je sais que vous l'aimez moins que Lady Di, mais je vous raconterai Camilla Parker Bowles, l'épouse du roi Charles III d'Angleterre.
Oh my God. Enfin, je vous surveille quand même. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.